Lors de la conférence des ambassadeurs hier, Emmanuel Macron a affiché sa volonté de répondre aux défis migratoires en annonçant un déplacement prochain au Burkina Faso pour renforcer l'axe Afrique-Méditerranée-Europe. La veille, lors d'un mini-sommet Europe-Afrique, il avait confirmé la création de hotspots, notamment au Niger et au Tchad. Bonjour Hélène Thiollet.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS, au CERIS Sciences Po. Vous avez dirigé le livre « Migrants, migration, 50 questions pour faire votre opinion » aux éditions Armand Collin. S'agit-il d'une inflexion dans la politique vis-à-vis des migrants ?
Pas vraiment. En fait, ce que fait Emmanuel Macron, et ça correspond à ses annonces de campagne, c'est qu'il prolonge une politique qui a maintenant quelques années, puisqu'elle a été lancée au début des années 2000, d'externalisation des frontières de l'Europe. En 2000, on a effectivement les accords de Cotonou qui ont prolongé les accords de Lomé, qui ont réuni les pays européens et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et qui ont mis en place un dispositif coordonné pour tenter de faire en sorte que les pays africains gèrent les frontières migratoires de l'Europe, c'est-à-dire les flux de migration essentiellement économique, avec un objectif principal, c'est de faire la guerre à la migration dite clandestine. Et ce dispositif a amené, par exemple, il y a 2 ans, au sommet de La Valette, en 2015, une nouvelle réunion de ces pays afro-caribéens et des pays européens qui ont réaffirmé les objectifs de Cotonou, c'est-à-dire essentiellement faire la guerre à l'immigration clandestine, avec plusieurs dispositifs. Un dispositif qui est un petit peu fantasmatique, qui est l'idée qu'en donnant de l'argent aux pays les plus pauvres de l'Afrique et en les développant, entre guillemets, on va arrêter l'immigration, et surtout en finançant des opérations de police et des dispositifs de contrôle du transit des personnes migrantes à travers ces pays.
Pourquoi idée fantasmatique, Hélène Thiollet ?
Parce que ça fait déjà une trentaine d'années que la recherche en économie a montré que plus on développe les régions très pauvres, notamment en Afrique mais pas seulement, plus les gens qui autrefois n'avaient pas les moyens de partir, partent.
On voit aussi toujours cette volonté de distinguer l'immigration économique de ceux qui demandent asile au nom, par exemple, du statut de réfugié politique. La distinction est-elle aussi simple à faire ?
La distinction est très complexe. On voit bien dans le discours d'Emmanuel Macron, comme dans le discours d'Angela Merkel d'ailleurs en 2015, et les résultats ont été très positifs si on se passe du point de vue des obligations internationales et du respect du droit international envers les demandeurs d'asile, c'est-à-dire on a accueilli beaucoup de réfugiés. Mais la distinction, elle est très complexe à opérer dans la pratique. Quand vous avez un bateau d'Africains subsahariens qui traverse la Méditerranée et que vous affirmez que vous voulez sauver et accueillir les réfugiés et éventuellement ne pas sauver ou renvoyer chez eux les migrants, la question est comment allez-vous déterminer qui est qui et qu'est-ce que vous allez faire exactement face à ce bateau ? Donc il y a une question d'opérationnalisation, allez-vous laisser mourir les uns pour sauver les autres ? Donc cette question d'identification, elle est cruciale. La deuxième question, qui est une question un peu plus technique, c'est que le droit d'asile ne concerne pas seulement les individus, en fonction de leur nationalité. Aujourd'hui, on voit que les Syriens, les Irakiens, tendanciellement les Érythréens aussi, qui viennent de zones de conflit, ou les Afghans, qui viennent de zones de conflit déclarées, obtiennent facilement l'asile en Europe, avec, comme on l'entendait dans les nouvelles précédemment, de grandes différences entre les nationalités et quel pays accueille quelle nationalité.
Bon, mais alors, justement, Hélène Thiollet, si on prend le cas de l'Érythrée, qui est une dictature particulièrement sanglante, est-ce que l'on peut imaginer, par exemple, qu'il n'y ait parmi ces Érythréens des gens qui ne demanderaient que l'asile économique, puisque tous sont susceptibles finalement d'être persécutés et il n'y a pas de raison en fait de faire une distinction parmi les Érythréens.
Alors, a priori non, puisque les Érythréens obtiennent au terme du droit international l'asile prima facie, c'est-à-dire à première vue, du fait simplement de leur nationalité.
Ça veut dire qu'on ne peut pas les refuser ?
C'est-à-dire que en théorie, on ne devrait pas pouvoir les refuser.
Mais en pratique, c'est pourtant ce qui se passe.
Alors, En pratique, chaque pays européen, même au sein de l'Europe, où il y a une forte coordination des politiques d'asile, les pays expriment des préférences et reconnaissent plus ou moins facilement le droit de résider en tant que réfugié sur le territoire à certaines nationalités. C'est-à-dire chaque pays a des politiques d'asile spécifiques.
Mais c'est ça qui est compliqué à comprendre, tout simplement parce que personne n'a envie de vivre en Érythrée au vu de la situation actuelle de l'Érythrée. Et on ne comprend pas, par exemple, ce que l'on a entendu dans les informations de Catherine Dutu tout à l'heure sur la situation des Érythréens en Belgique. On ne comprend pas, finalement, au nom de quoi on pourrait demander à un Érythréen de retourner dans son pays.
Notamment parce que ce serait en contradiction avec le droit international. Le Haut Commissariat aux réfugiés reconnaît, par exemple, au Soudan, hein, quand il opère lui-même des déterminations de statut de réfugié, le droit d'asile à tous les réfugiés érythréens. Mais la question qui se pose, en fait, c'est une articulation entre la dimension collective de l'asile, on est réfugié parce qu'on vient d'un pays où il y a la guerre, etc., irakiens, syriens, érythréens, et la dimension individuelle. Et je reviens sur la question de la distinction entre réfugiés et migrants. Un Nigérian qui vient de certaines régions et qui, à titre individuel, est persécuté, doit pouvoir demander l'asile. Donc je reviens à mon bateau. Il faudrait que je puisse opérer un examen de la situation individuelle de chacun dans mon bateau avant de laisser mourir les uns, sauver les autres.
L'autre élément, c'est donc l'installation de hotspots, autrement dit des centres qui vont accueillir les réfugiés et qui vont opérer un distinguo parmi ces réfugiés. Alors il s'agit, selon Emmanuel Macron, d'en faire au Niger et au Tchad. Est-ce que les objectifs de l'installation de ces hotspots peuvent aboutir à des résultats effectifs, Hélène Thiollet ?
On a une politique qui vise à étendre à l'asile l'externalisation des frontières par rapport à la migration. Cette politique, elle a commencé avec les accords de Turquie en 2015, on le dit souvent, mais en fait, elle a commencé bien avant, avec ce qu'on appelle le processus de Khartoum en 2014, où l'Union européenne s'est associée à Omar el-Béchir, qui est le président soudanais sous mandat d'inculpation internationale pour crimes de guerre et génocide, et Isaias Afewerki, le président érythréen. Donc on voit
qui lui aussi
est la cause, en fait, du départ de ces réfugiés. Donc on voit, en fait, que cette externalisation de l'asile amène l'Europe à nouer des relations diplomatiques et à confier à des partenaires politiques peu recommandables la gestion des droits humains et de l'asile de ces migrants.
Donc ça peut être potentiellement très dangereux.
Ça peut être très dangereux. Les conditions de détermination de l'asile ne sont pas garanties dans des pays qui ne respectent pas le droit, qui ne sont pas démocratiques. Par ailleurs, et alors l'objectif est louable, il s'agit d'éviter aux demandeurs d'asile, entre guillemets, légitimes, d'entreprendre des voyages périlleux, de payer des passeurs et de perdre leur vie à travers la Méditerranée. Donc d'éviter les trafics. Évidemment, cet objectif est légitime, mais pourquoi ne pas utiliser ce qui existe déjà, c'est-à-dire la capacité du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, l'Agence onusienne des réfugiés, de proposer aux pays européens des réfugiés à réinstaller, puisque l'ONU opère déjà dans tous les pays à proximité des zones de conflit, et chaque année, l'ONU demande aux pays développés « Combien vous m'en prenez ?» C'est-à-dire, est-ce que vous allez accueillir des réfugiés dans le cadre de la réinstallation ? Et juste pour vous donner un chiffre, il y a environ un peu plus de 22 millions de réfugiés sur 68 millions de déplacés, mais 22 millions de réfugiés dans le monde. Et chaque année, il y a entre 160 000 et 180 000 réinstallations seulement. Donc ce dispositif qui existe déjà, qui n'a pas de coût pour l'Europe, pourrait permettre de faire ce qu'Emmanuel Macron veut faire, c'est-à-dire aller chercher les réfugiés là où ils sont.
Merci beaucoup Hélène Thiollet. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé, Migrants, Migration, 50 questions pour vous faire votre opinion. C'est chez Armand Collin.